بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Donc, comme vous le savez, ce mois de Ramadan, cet invité qui est avec nous depuis maintenant une semaine, cet invité qui est arrivé très vite et qui repart et repartira très vite, cet invité qui est le mois du Coran. Durant ce mois, le musulman doit donner toute son énergie dans le fait d'essayer de comprendre le Coran, de méditer sur le Coran, de lire le Coran et surtout d'appliquer le Coran. À titre de rappel, une chose importante à savoir, comme nous savons, nous l'ont mentionné, c'est que lorsque nous sommes dans la mosquée et qu'il y a des masahif à disposition, le Coran doit être lu à partir du mushaf et non à partir du téléphone. Donc il n'y a pas de mal à lire le Coran avec son téléphone dans le cas où on n'a pas de mushaf à disposition. Par contre, lorsque les masahif sont à disposition, on prend le mushaf et on ne prend pas le téléphone. Comme les savants nous l'ont expliqué, le mushaf, le fait de le tenir, le fait de tourner les pages, le simple fait de le regarder, c'est une adoration et tu es récompensé. Ce que tu n'as pas dans le téléphone. Donc c'est un point à rappeler. Donc nous reprenons là où j'y étais avant cette parenthèse, l'importance de méditer sur le Coran. Et l'importance également de suivre là où l'imam va réciter. Notre imam et nos imams, hafizahum Allah, récitent un hizb, donc une partie du Coran par soir. Donc vous le savez, le Coran est divisé en 114 surahs. Ces 114 surahs sont répartis en 30 ajza, un juz qui constitue à peu près une vingtaine de pages. Donc dans le Coran, il y a 30 juz. Chaque juz est divisé en hizb, en deux hizb. Chaque juz contient deux sous-parties, deux hizb. Donc un hizb, c'est environ 10 pages. C'est ce qui est récité chaque soir. C'est ce qui est récité chaque soir, c'est un hizb. Chaque hizb est divisé en 4 rubu', 4 quarts. Donc un quart, c'est ce qu'il y a dans 2 rak'at. Vous voyez un petit peu la répartition du Coran. Et chaque quart est réparti en thumun, un huitième. Et ce thumun, c'est ce qui est récité dans une rak'at. Donc en connaissant cela, le musulman peut savoir, et avant de venir, dans la journée, savoir là où nous sommes arrivés et de préparer ce tarawih, c'est-à-dire de lire, déjà de lire ce qu'il va réciter. Tu sais que tu as une dizaine de pages à lire. De lire ce qu'il va réciter, de lire le tafsir de ce qu'il va réciter. Comme ça, lorsque toi tu pries le tarawih, tu sais exactement où nous sommes. Et hier, notre imam, hafizahullah, est rentré dans les surahs dans les versets de surat al-Imran qui ont été descendus durant la bataille de Uhud. Sachez que durant la bataille de Uhud, plus de 60 versets ont été révélés. Plus de 60 versets du Coran ont été révélés lors de cette bataille énorme. Et les batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi que ses compagnons, le musulman se doit d'en tirer toutes les leçons. Notamment la bataille de Uhud, qui fait partie des batailles où Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé les musulmans. Cette bataille où Allah azza wa jal a fait la distinction entre les croyants et les mécréants, entre les musulmans et les hypocrites. Cette bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé, cette bataille où le prophète alayhi salatu wa sallam est tombé dans un trou, où il a reçu une pierre dans la tête qui lui a cassé sa dent incisive, cette bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé et a saigné, cette bataille où Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort, cette bataille où Mus'ab ibn Umayy radiyallahu anhu, qui faisait partie des plus grands compagnons du prophète alayhi sallam, ceux qui connaissaient tout le Coran, ceux qui faisaient partie des prédicateurs, des da'i que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé pour faire da'wah, il est tombé également en martyr, et bien d'autres martyrs sont tombés lors de cette bataille. Donc le musulman se doit de connaître d'une manière générale la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les êtres humains n'ont pas plus besoin de nourriture, de boisson ou même d'air et de lumière qu'ils n'ont besoin des prophètes et des messagers, puisque les prophètes et les messagers sont les intermédiaires entre Allah Azza wa Jalla et ses serviteurs. Donc le musulman se doit de connaître la vie des prophètes et plus spécifiquement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas être ignorant de sa biographie, et de nombreux livres ont été traduits, en langue française quant à sa biographie alayhi salatu wa sallam. Nous allons résumer très brièvement. Et vous me connaissez, je n'aime pas les résumés, mais nous allons résumer cette bataille de Uhud, puisque l'affaire dans son entièreté demanderait plusieurs conférences, mais simplement afin de vous donner le goût de cette bataille, pour que chacun s'intéresse et lise la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette bataille a eu lieu dans le mois de Shawwal, donc juste après le mois de Ramadan. Cette bataille est survenue un an après la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, qui elle a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Et bi'idhnillah, nous aurons l'occasion, lorsque les versets arriveront à la bataille de Badr, nous aurons l'occasion d'expliquer cette bataille. À la bataille de Badr, les musulmans ont vaincu les mécréants. Les mécréants qui étaient nombreux, les musulmans qui étaient très peu, les mécréants qui pensaient venir à la bataille en chantant, en buvant et exterminer les musulmans et repartir, mais bien au contraire. Par l'aide d'Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé des armées d'anges, une armée d'anges, afin de soutenir les musulmans, et les musulmans ont éradiqué l'armée des mécréants. Et beaucoup de têtes parmi les nobles mécréants qui étaient dans cette bataille sont morts. Et ça a été une honte totale pour les Quraysh. Jusqu'à ce que les Quraysh avaient interdit aux familles de pleurer les morts qui étaient tombés à Badr. C'était interdit. Parce que c'était une honte. C'était une honte que plus de 3000 hommes fut vaincu par moins de 300 hommes qui étaient l'armée des musulmans. Abu Sofyan, qui était à la tête des Quraysh après la bataille de Badr, a préparé son armée pendant un an. Pendant un an, ils ont préparé cette attaque ils ont préparé cette revanche. Et ils ont pris la route de Médine. Et ils ont pris la route de Médine avec les soldats et les femmes des soldats. Pourquoi ? Pour que dans la bataille de Uhud, les femmes, entre guillemets, encouragent les maris et leur disaient en chantant des vers de poème, si vous ne revenez pas, allez, si vous revenez de cette bataille, entre guillemets, vainqueur et vivant, nous serons à vous. Mais si vous ne revenez pas, allez, c'est une honte pour vous. C'est-à-dire que la personne, il combat et il sait que derrière lui, il y a les femmes, etc. Cela a été pour les encourager. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, sur la route, un envoyeur a été envoyé afin de prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de prévenir le prophète alayhi salatu wa sallam de cette invasion. Le prophète alayhi salatu wa sallam a prié la prière du Jumu'ah. Et dans cette prière, il a incité les compagnons au fait d'être courageux, d'être brave. Et ensuite, il s'est réuni avec les compagnons et il a fait Ashura. Il a demandé le conseil. Est-ce que nous sortons de Médine à leur rencontre ou est-ce que nous attendons et nous ne faisons rien? Les compagnons étaient divisés en deux. Un groupe qui était d'avis de ne pas sortir de Médine et de rester et de ne pas les attaquer en premier. Et parmi eux, parmi les compagnons, il y avait les compagnons d'un côté et il y avait aussi des hypocrites qui étaient infiltrés. Et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui faisait partie des têtes des hypocrites et qui lui faisait tout pour ne pas sortir de Médine. Pour ne pas sortir de Médine et pour ne pas aller à la rencontre des Quraysh. L'autre partie qui était d'autres compagnons qui étaient pour cette bataille, pour ce combat. Et à leur tête, Hamza ibn Abi Talib, radiallahu anhu, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, par celui qui détient mon âme entre sa main, juré par Allah Azza wa Jal, je ne mangerai pas tant que je ne les aurai pas combattus. Je ne mettrai aucune nourriture dans ma bouche tant que je ne les aurai pas combattus. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait Ashura, cette consultation, il a mis son bouclier. Il a mis deux cuirasses. Et lorsque les compagnons qui étaient d'avis de ne pas combattre ont vu cela, lorsque les compagnons étaient d'avis de combattre, ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis son bouclier, lui ont dit, Ya Rasulallah, on n'a pas voulu te contredire dans ta parole. Si tu ne veux pas sortir de Médine, nous te suivrons. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il n'appartient pas à un prophète, lorsqu'il a mis sa cuirasse, de ne pas combattre jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla nous départage. Ou dans le sens du hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a campé cette nuit et la bataille a eu lieu du samedi matin. La bataille a eu lieu à Uhud du samedi matin. Avant la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé en revue ses compagnons. Et parmi les compagnons, il y avait de jeunes enfants. Et d'une manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les enfants avaient moins de 15 ans, il ne les faisait pas participer à la bataille. Il y avait certains enfants qui, lorsqu'ils étaient passés en revue, ils gonflaient les épaules et ils se levaient de peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les prenne pas. Parmi certains compagnons qui ont participé, il y avait un compagnon qui était très jeune mais qui était très fort dans le lancement des flèches. Et lorsque son ami a vu que lui a été pris et pas lui, il a dit « Oh messager d'Allah, moi je suis plus fort que lui. Tu l'as pris lui alors que moi je suis plus fort que lui. » Regardez comment ces jeunes avaient cette envie d'élever la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les prendre au mot et de les départager en leur faites un combat et celui qui l'emporte sera pris. Et c'est effectivement celui qui avait dit qui a été plus fort, qui a mis son ami par terre et il a gagné sa place, il a gagné sa place dans la bataille. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une armée de 1000 hommes. Et sur ces 1000 hommes, il y avait plus de 300 hypocrites. Et en cours de route, les hypocrites et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloud, sont revenus sur leurs pas. Donc, sur le chemin, ils étaient 700. En sachant que cette armée a été préparée en même pas une nuit. C'est-à-dire que beaucoup de compagnons n'étaient même pas au courant, de cette bataille. Donc, les 700 hommes sont partis, yani, à Uhud, qui était un endroit aux portes de Médine, au nord de Médine, afin de se préparer à cette bataille. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, dans les versets que nous avons récités hier, « إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » Dans le sens du verset, deux groupes de bons combattants étaient sur le point de lâcher prise. Mais Allah Azza wa Jal se fit leur soutien. N'est-ce pas à Allah que doivent s'en remettre tous les croyants? Ensuite, la bataille a commencé, était sur le point de commencer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi 50 archers, 50 compagnons qui maîtrisaient l'arc et les flèches. Et à leur tête, Abdullah ibn Jubayr, elle a aussi. Il les a mis sur cette montagne que l'on appelle aujourd'hui Jabal al-Rumman, la montagne, le mont des archers. Et il leur a donné une consigne simple. Si nous gagnons, ne descendez pas. Si nous perdons, ne descendez pas. Et vous attendez l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la bataille a commencé. Elle a commencé par un tête-à-tête entre des jeunes musulmans et un des Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suivait ce combat. Et lorsque le musulman a terrassé le Quraysh, il disait « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Ensuite, la bataille a fait rage. Et durant la première partie de la bataille, les musulmans ont terrassé les mécréants. Les musulmans ont terrassé les Quraysh. Et entre eux, ils disaient « Amit, Amit ». C'est-à-dire que lorsqu'ils disaient « Amit, Amit », ils savaient que c'était Yanni. C'était comme le code secret entre les musulmans. Entre lorsqu'il y avait la bataille faisait rage, lorsqu'ils entendaient ce Amit Amit, ils savaient que c'était des musulmans, ils allaient les aider. Ensuite, les archers, lorsqu'ils ont vu que les musulmans ont pris part, que les musulmans étaient sur le point de vaincre et que les Quraysh étaient sur le point de fuir, ils ont dit Al-Ghanimat Al-Ghanima. Le butin, allez chercher le butin. Et là, Abdullah ibn Jubayr, qui était à la tête de ses archers, de leur dire, ne désobéissez pas à l'ordre du prophète, alayhi salatu wa salam. Et dans l'armée des Quraysh, il y avait Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid qui faisait partie des grands stratagèmes des Quraysh. Et plusieurs fois, il essayait de contourner l'armée des musulmans par derrière, mais les archers le repoussaient. Les archers faisaient en sorte qu'ils ne pouvaient pas avancer. Et lorsqu'ils sont descendus, lorsqu'une partie d'entre eux sont descendus, Khalid ibn Walid a sauté sur l'occasion. Ils sont montés, il restait une dizaine d'archers et ils ont tué ces archers en premier. Ensuite, l'armée musulmane a fait face à cette deuxième partie du combat où l'armée musulmane a été à ce moment-là blessée. Et regardez la cause de la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avancez, barakallahu fikoum. La cause de la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'à ce moment-là, plus de 70 compagnons sont tombés en martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé durant cette bataille. Et cette bataille ne fut ni une victoire, ni une défaite de chaque côté. Donc voilà pour ces quelques points sur la bataille de Uhud. Il y a de nombreux livres, rien qu'ici dans la mosquée, il y a de nombreux livres qui relate la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Al-Fusul fi Sirat al-Rasul de l'imam Ibn Kathir et comme Al-Rahiq al-Maktoum, le nectar cacheté de Mubarak Furi, rahimahum Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.